Radio Grand Ciel présente Art et Histoire, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Danielle Ferré, historienne, ancienne adjointe du maire qui était chargée de la culture à Mortagne-au-Perche. Elle connaît particulièrement bien cette ville et son église, et c'est à propos des vitraux de l'église de Notre-Dame de Mortagne qu'elle vient ici faire une analogie avec l'histoire de France. Danielle Ferré, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors, vous aviez évoqué au cours d'une émission l'église de Mortagne-au-Perche, les bienfaits, les joies, les vicissitudes aussi de cette église. Et aujourd'hui, ce sont les vitraux qui vont être notre étude. Alors, de quelle époque à quelle époque vous allez parler et comment allez-vous évoquer l'histoire de France à travers ces vitraux ?
Alors, les vitraux de l'église de Mortagne s'étalent sur une très très longue période, du XVIe siècle jusqu'à nos jours.
Oui, c'est ça, jusqu'au XXIe siècle, puisqu'il y a des vitraux qui ont été inaugurés il n'y a pas si longtemps. Vitraux absolument superbes, et nous expliquerons justement ces différentes inaugurations.
À travers les vitraux, nous pouvons vraiment voir défiler toute l'histoire de Mortagne.
Et l'histoire de France aussi.
Exactement, tout se raccorde, et je peux dire que les vitraux de Mortagne nous donnent un résumé de l'histoire de France, aussi bien que de l'histoire du Perche.
Alors, nous commençons par quelle époque ?
Alors, nous allons commencer par le Moyen-Âge. Nous allons suivre chronologiquement ce que nous racontent les vitraux, mais ils n'ont pas été installés chronologiquement.
Donc, on va faire des retours de temps en temps.
Exactement. Nous pouvons...
Peut-être déjà, excusez-moi, rappelez-nous l'époque à laquelle a été construite l'église à Mortagne-au-Perche.
L'église a été construite à la fin du XVe, début du XVIe siècle. Et c'est à partir du XVIe siècle que des vitraux ont été installés. Et certains vitraux de l'église Notre-Dame sont vraiment splendides, typiques des vitraux du XVIe.
Alors, quand vous dites typique, ça, je crois que ce serait intéressant, surtout pour nos jeunes auditeurs, de dire ce qui est typique au XVIe siècle, enfin, à cette époque, qu'est-ce qu'il y a de typique ?
Eh bien, je ne suis pas une spécialiste de l'art du vitrail, mais on peut déjà constater que certaines techniques médiévales ont disparu et ont été abandonnées. On ne sait déjà plus faire le bleu de Chartres, par exemple.
Oui, c'est vrai.
Donc, c'est un art tout à fait particulier que l'art du vitrail. Mm-hmm. C'est un art typiquement français. On ne retrouve pas, ni en Italie, ni en Europe en général, on ne retrouve pas cet art merveilleux qu'avaient les vitraillistes de France. Alors, ce que personnellement, j'admire beaucoup dans les vitraux du XVIe, ce sont les couleurs, bien sûr, et les perspectives qui sont données, le dessin qui est absolument fabuleux, et puis également les grisailles. La grisaille qui est restituée est tout à fait exceptionnelle. On ne retrouve pas ça, on n'arrive pas à la retrouver au XIXe siècle, et bien sûr, elle n'existe pas au Moyen-Âge. Donc, quand on prend le temps de regarder les vitraux, on arrive très vite à les dater, on ne se trompe pas.
Alors, expliquez-nous justement, puisqu'on a dit qu'on allait faire un peu une leçon chronologique.
Alors, disons qu'on va parler des vitraux du XVIe. Les vitraux du XVIe, il y en avait partout dans l'église, mais ils ont été démontés à plusieurs époques, ou ils ont été endommagés. C'est très dommage pour l'église de Mortagne, parce qu'on peut s'imaginer qu'elle devait avoir la même beauté que Notre-Dame d'Alençon. C'est certainement les mêmes vitraillistes et la même école d'art du vitrail, certainement. Mais Alençon, ses vitraux viennent d'être restaurés après une campagne d'une dizaine d'années, peut-être, qui a coûté assez cher. Et je ne saurais conseiller à vos éditeurs de faire le détour. C'est tout à fait un ensemble exceptionnel. Donc, à Mortagne, on a quelques vitraux rescapés qui sont du côté façade nord, tout proche du portail des Comtes. Et là, vous en avez deux qui sont particulièrement bien conservés, la danse de Salomé et la décollation de Saint-Jean-Baptiste. Et
alors, décrivez-nous la danse de Salomé, les couleurs, faites-nous rêver.
Alors, effectivement, on peut rêver devant la danse de Salomé. Elle est au centre du vitrail. Et vous avez une robe en jaune absolument somptueuse. Il faut y aller au moment du coucher du soleil pour que le soleil donne vraiment dedans. Malgré l'état un petit peu négligé du vitrail, aujourd'hui il aurait besoin d'un grand nettoyage. C'est un vitrail sur lequel vous avez du mal à vous décrocher, voilà. Tellement c'est beau. Et puis vous avez...
Alors il y a Salomé qui danse.
Qui danse devant Hérode Antipater. Et vous avez sa mère également qui la regarde. Et Salomé doit apporter la tête de Jean-Baptiste que l'on voit sur la gauche, tandis que sur la droite, vous avez Saint-Jean l'évangéliste.
Alors donc, ça, c'est quelle couleur?
C'est des tons beaucoup plus sombres. Hein. Oui. Et au-dessus, vous avez les gens qui regardent, et on pense que ce sont les donateurs, qui sont dans des robes rouges, ces rouges de la Renaissance absolument fabuleux. Donc tout ça est très beau. J'ajouterais que la présence des deux Saint-Jean, Saint-Jean l'évangéliste, Saint-Jean-Baptiste, sur un même vitrail est tout à fait exceptionnelle. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit d'un vitrail un peu de réconciliation entre les protestants et les catholiques.
Oui, parce que les guerres de religion ont été sévères dans le Perche.
Voilà.
Vous l'aviez évoqué dans une émission plus récente. Et c'est vrai que les églises ont souffert aussi, comme les gens, pendant les guerres de religion.
Voilà. Ces deux Saint-Jean sont l'un pour les protestants, les autres pour Saint-Jean-Baptiste, c'est pour les catholiques. Donc les mettre tous les deux, c'est un peu les honorer et essayer de réconcilier protestants.
C'est les Nantes, en fait.
Exactement. Alors, au-delà de la danse de Salomé, vous avez aussi un jeu de trick-track qui évoque l'enfant prodigue. On ne voit pas le retour de l'enfant prodigue, mais on voit l'enfant prodigue jouer au jeu. Et vous connaissez l'évangile.
Et... Alors peut-être ce serait bien de l'expliquer un peu.
Oui, si nous avons le temps.
Oui, oui, oui.
Disons que l'enfant prodigue ici est montré dans toutes ses actions de dévergondage en quelque sorte. Mmh. Il joue au jeu et c'est une jolie scène au-delà du jugement que le vitrailliste pouvait porter. Mais c'est une très jolie scène où on voit l'enfant prodigue attablé avec des compagnons de jeu. Alors le vitrail a été abîmé, donc on n'a que le haut du vitrail. Il ne reste que ça, on ne voit pas le retour de l'enfant prodigue. Il faut savoir qu'il y avait une très belle verrière qui représentait la Marguerite de Lorraine en manteau d'hermine.
Oui, parce que Marguerite de Lorraine aussi est très importante à Mortagne.
Tout à fait, on va le voir tout à l'heure à propos des vitraux historiés. Les gens de l'époque, au XIXe siècle, lorsqu'ils ont rénové le chœur, trouvaient que cette verrière faisait trop d'obscurité dans l'église, donc ils l'ont démontée. Ils l'ont entreposée dans un bâtiment alentour, puis finalement elle a été détruite. Enfin, l'ensemble de la verrière s'est trouvé cassé au cours du temps, etc. De même pour des vitraux qui étaient dans le chœur, et qui, eux aussi, ont été démontés, mais transférés au Pin-la-Garenne, replacés dans l'église. Malheureusement, des enfants jouant avec des cailloux en ont cassé la majeure partie. Donc, triste vitraux du XVIe, quelques rescapés, mais qui valent vraiment la peine et le détour pour aller les admirer.
Alors, nous passons au XVIIe siècle.
Je n'en dirai rien parce que l'art du vitrail est complètement abandonné au XVIIe, XVIIIe siècle. On ne parle plus de vitrail et il faut attendre le XIXe pour voir renaître une école du vitrail en France.
Alors cette école du vitrail, où est-elle d'ailleurs?
Il y a toujours une école du vitrail à Chartres et en Normandie, vous aviez une école du vitrail à partir de 1880, je pense, jusqu'à nos jours, à ce moment-là, autour de Barillet et Tournelle. Et ensuite, le grand vitrailliste de l'entre-deux-guerres, c'est Ingrand. Tout cela, nous avons quelques exemplaires. Mais durant le 19e siècle, les Mortagniers vont installer des verpins.
Alors, qu'est-ce que c'est que le verpin?
Mais qui ont été remplacés, donc on ne va pas s'y attarder.
Mais dites-nous quand même ce que c'est.
Oh, c'est des verres colorés en quelque sorte, et qui sont comme des décalcomanies. Ces verpins n'ont pas le rendu ou les effets du vitrail. On ne peut pas jouer avec la lumière. Totalement différent. C'est, un verpin, c'est terne.
Donc il faut attendre vraiment le 19e siècle pour avoir l'histoire qui va être racontée.
Exactement. Parmi les vitraux importants, parmi les vitraux historiés qui sont importants à cette époque, nous pouvons prendre un ordre chronologique. Et nous avons sur la façade nord, au bas de l'église, l'un des vitrails les plus importants, le vitrail des trois comtesses.
Ça, c'est très connu, c'est Pierre Boucher.
Et puis le vitrail de Pierre Boucher, qui est à côté. Tout cela, école de Barillé-Tournelle. Alors, les trois comtesses, c'est-à-dire Mao de Bavière, Marie d'Armagnac et Marguerite de Lorraine. Trois comtesses très religieuses, très dévouées à la religion, donc elles sont dans des positions de prière ou d'offrande. Alors Mao de Bavière, c'est elle qui a doté la ville de la collégiale de Toussaint, puisque son mari meurt durant la quatrième croisade. Elle va consacrer une collégiale à la vie de tous les saints, pour le repos de l'âme de son mari. Ce sera un des plus beaux monuments de la ville, avec encore aujourd'hui une crypte qui est...
Voilà. Alors, il n'y a malheureusement plus la collégiale, qui était donc juste à côté de l'église.
C'est ça.
Mais maintenant, il y a quand même la crypte, qu'on appelle la crypte de Toussaint, donc, et qui est fort jolie, et qu'on peut visiter.
Tout à fait. Alors, Mao de Bavière a donc marqué de son sceau la ville de Mortagne, grâce à cette construction, la collégiale de Toussaint. Et de là, vous avez un très beau manoir de ville avec le logis de Toussaint.
Très bien. Mais si vous le voulez, nous allons marquer une pause musicale. Avec Danielle Ferré, une historienne qui s'intéresse à Mortagne-au-Perche, à l'église de Mortagne-au-Perche. Et là, aujourd'hui, elle a expliqué la spécificité de Mortagne, à savoir les vitraux, de très beaux vitraux. Et maintenant, nous expliquons, enfin plutôt Danielle Ferré va nous expliquer comment sont les vitraux du 19e siècle à Mortagne-au-Perche. Et je crois qu'ils racontent eux-mêmes toute l'histoire de Mortagne et aussi l'histoire de France, en quelque sorte.
Tout à fait. En fait, ces vitraux reprennent les grands événements de l'histoire de Mortagne. Et par l'histoire de Mortagne, on rejoint l'histoire de France.
Oui. Donc, nous étions, je crois, aux trois comtesses.
Les trois comtesses.
Alors, dites-nous leurs noms, parce que ce sont des jolis noms.
Alors, Mao de Bavière, Marie d'Armagnac et Marguerite de Lorraine. Trois comtesses qui, au Moyen-Âge, ont beaucoup servi la ville et ont eu toujours l'estime de la population. Alors, Mao de Bavière, on l'a vu tout à l'heure.
Oui.
Et maintenant, Marie d'Armagnac, c'est la femme de Jean II d'Alençon. Nous sommes au moment de la guerre de Cent Ans.
Anne-Jean-Rotrou l'a habité aussi, là.
Ah oui. Oui, nous sommes au moment de la guerre de Cent Ans. Jean II d'Alençon a eu une politique un petit peu brouillonne vis-à-vis du roi de France. Il sera tout à fait désapprouvé par Louis XI au moment de la fin de la guerre de Cent Ans. Et c'est la pauvre Marie d'Armagnac qui va subir la rancune de Louis XI en venant se réfugier à Mortagne. Et on peut encore voir la maison où elle a habité au moment de son exil.
Ah oui, c'est quelle maison ?
C'est cette maison qui fait l'angle entre la rue Aristide Briand et la rue des 15 Fusillés, là où se trouve une boulangerie actuellement.
Ah, oui.
Donc vous avez une très belle entrée sous un porche.
Oui.
C'est ce qui reste de cette ancienne maison résidence de Marie d'Armagnac.
Je veux dire que Mortagne-au-Perche, chers auditeurs, il y a beaucoup d'hôtels particuliers, tous plus beaux les uns que les autres. Et nous avons évoqué tout à l'heure la maison d'Henri IV, mais il y a encore d'autres très jolies maisons.
Tout à fait. Et c'est la présence des comtes et des comtesses qui explique aussi, quelquefois, ces implantations luxueuses de maisons ou d'hôtels particuliers.
Une ville comme Mortagne qui compte 8000 habitants, non ?
Oh, beaucoup moins, beaucoup moins. Oui. Entre 4800 et 5000 habitants.
Ah oui, mais quand même, vous avez une médiathèque absolument remarquable.
Remarquable, il faut venir la visiter.
Ah oui, oui, on peut le dire. Alors, revenons à nos vitraux.
Marie d'Armagnac, nous la voyons offrir des fleurs à Jean II d'Alençon.
Alors, ce vitrail-là, où se trouve-t-il ?
C'est sur le même vitrail. Vous avez les trois comtesses côte à côte. Et elle est donc en position d'offrande. Et puis, à côté, vous avez Marguerite de Lorraine qui est, elle, non pas en comtesse, mais en religieuse. Puisqu'à la fin de sa vie, comme je vous le disais, elle a trouvé refuge dans un monastère d'Argentan. Donc ce sont des comtesses qui ont beaucoup compté pour la ville de Mortagne et qui restent dans le cœur des Mortagniers. Tout à côté, un autre vitrail, celui qui évoque le départ de Pierre Boucher pour la Nouvelle-France, pour le Canada.
Oui, alors là, c'est toute une histoire que vous allez nous conter, bien sûr, parce que les Mortagnais, beaucoup de Mortagnais sont partis au Canada.
C'est un épisode glorieux de la vie des Mortagnais, qu'ils évoquent toujours avec beaucoup, beaucoup de passion. Il y a des échanges très fructueux entre le Québec et la ville de Mortagne, ainsi que toute cette région du Perche. Des familles entières se sont implantées au Canada et ont fait souche. Les plus connus, c'est par exemple les Cloutiers, les Boulay. Par exemple, la grande chanteuse actuelle est une descendante des Boulay, ou alors les Guimonts et les Boucher. Et donc, notre Pierre Boucher, qui a joué un si grand rôle dans la colonisation.
C'est pour ça qu'il y a une ville qui s'appelle Boucherville.
Tout à fait.
Et il faut savoir aussi qu'au Canada, au Québec, il y a tout un village avec les noms de nos environs du Perche.
C'est ça. Et Pierre Boucher part à l'âge de 12 ans, vers 1634. Il part avec toute sa famille et bien sûr des concitoyens. Il part donc s'implanter là-bas. Il fera souche, il aura 16 enfants et il sera considéré comme un père fondateur. Il a joué un très très grand rôle dans la colonisation du Québec. Enfin, je ne sais pas si le mot colonisation est tout à fait adéquat, mais du moins dans l'implantation des Français, des Percherons là-bas. Au départ, il s'est marié avec une Huronne, parce que les Hurons étaient la tribu autochtone qui se conciliait avec les Français. Et les rapports étant excellents avec les Hurons, contre les Iroquois, à tel point que Pierre Boucher s'est marié avec une Huronne. Et il a donc appris la langue de sa femme et il a écrit un livre qui vraiment est une bible pour qui veut découvrir le Québec à cette époque-là, l'histoire ou présentation naturelle des populations, des mœurs et de la production de la Nouvelle-France, appelée vulgairement Canada. Alors, il décrit tout ce qu'il voit, décrit toute la faune, toute la flore. C'est assez magique à feuilleter.
Vous l'avez lu
Moi, je l'ai vu parce que je l'ai regardé en bibliothèque. Il y a des facsimilés récents qui sont quand même intéressants à feuilleter. Mais l'original n'est pas à la bibliothèque de Mortagne.
Ah, c'est peut-être à Paris plutôt.
Oui, et puis je me demande si à Nogent, il y a peut-être un original. Peut-être. Et donc, le vitrail le représente au départ je pense qu'il part de Dieppe, le bateau, toute l'aventure qui commence.
Avec des couleurs très vives.
Très vives. Et c'est une aventure qui commence.
Des rouges, des bleus, très belles couleurs, un très beau vitrail.
Un très beau vitrail de fin 19e.
Donc le 19e, il y a des belles choses, surtout donc en matière de vitrail.
Surtout en matière de vitrail. Et puis il y a malgré tout des innovations, il y a des changements, il y a des rénovations. Le 19e siècle n'est pas maudit.
Non.
Même sur le plan artistique. Le 19e siècle, par exemple, avait refait un hôtel en marbre, genre Saint-Sulpice, qui faisait l'émerveillement des Mortagniers, qui ensuite, dans les années 60, avec le nouveau concile, a permis ou a entraîné un changement d'hôtel. mais des voix s'élèvent de nos jours pour essayer de le récupérer. Remettre.
On sait où il est.
Oui, on sait où il est, on le voit, et certains seraient tout à fait favorables à le remettre en place, à la place de la table d'hôtel qui mais existe. Oui. Comme quoi, les modes, les coutumes, tout ça, ça passe.
Il faut tout garder.
Il faut tout garder, et puis ça permet de redécouvrir.
Exactement. Alors, il y a aussi un très beau vitrail d'un prêtre mortagnais.
Alors, il y a le vitrail qui représente le curé Lemeunier, qui a été victime de la Révolution et qui est mort. Je pense que c'est ce vitrail que vous évoquez.
Massacré à Paris.
Voilà, dans la cour des Carmes. Alors, c'était un prêtre réfractaire qui ne voulait pas voter ou du moins prêter serment sur la constitution civile du clergé. Et donc, il a sacrifié sa vie à ses convictions.
Alors là, ce vitrail, où se trouve-t-il dans l'église?
Il est sur le côté sud.
Sur le côté sud.
Et donc, ce sont des vitraux plus récents. En quelque sorte, soit début 20e, ou alors on peut aller jusqu'à 1988.
Ah oui, alors.
Alors, les derniers vitraux, mais entre-temps quand même, il ne faut pas que j'oublie, surtout en 2014, vous avez un autre vitrail qui évoque la guerre de 14, qui a été implanté vers 1925, par là, et qui est tout à côté du vitrail des Trois Comtesses.
Et alors là, il montre des...
Alors, c'est intéressant de voir que la commémoration ou le souvenir ou l'hommage rendu aux soldats de 14 a été compliqué à Mortagne. Dans certaines régions, tout s'est fait avec la bonne entente, l'entente cordiale entre les prêtres et la municipalité. Quelquefois, ce fut plus délicat, sans qu'il y ait conflit. Mais ce fut plus délicat. Par exemple, la position du monument aux morts a varié à Mortagne. Ça a été difficile de savoir si on allait le mettre vraiment au pied de l'église. Donc, ces difficultés étant dites, eh bien, certainement que les religieux ont décidé de faire une plaque commémorative eux-mêmes dans l'église. D'où ce vitrail et ces plaques commémoratives qui font doublon avec le monument aux morts. Donc, il y a un grand vitrail qui évoque les morts de la guerre de 14. Ils sont en prière avec Jeanne d'Arc. Donc, on voit bien toute l'idéologie qui...
Ils se rejoignent.
Ils se rejoignent dans une prière commune. Et il y a un soldat de 14 qui est donc en position de mort.
Alors, aussi, le vitrail pour les frères Vallée aussi.
Alors, ces commémorations de guerre nous amènent sur la guerre de 40. Là encore, la guerre de 40 n'a pas été spécialement tragique pour Mortagne. La ville n'a pas connu les destructions telles que Caen ou Falaise. Mais il faut savoir, il faut le dire et il ne faut pas l'oublier, c'est que la résistance y a été très forte. Et ce qui est intéressant à Mortagne, c'est que la résistance elle a débuté dès 1941. Très tôt, les résistants, les premiers résistants, appartenaient à un réseau, le réseau Hector, qui ont été très vite arrêtés. Alors, le dernier vitrail installé dans l'église de Mortagne date de 1988. C'est très tardif, mais c'est très important puisqu'il commémore les frères Vallée déportés en 1942 en Allemagne pour remplacer des pères de famille qui était obligé de partir au service de travail obligatoire, les STO.
Eh bien, je crois que visiter une église, c'est parcourir 2000 ans d'histoire, c'est découvrir les évangiles. Je crois qu'à travers ce récit, Daniel Ferré, vous nous avez fait une véritable leçon d'histoire. Merci infiniment. Chers amis auditeurs, vous pourrez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiograndciel.fr.